Bonjour tout le monde à Nancy et bienvenue pour une émission spéciale d'été de European Roll. Le thème aujourd'hui, la Turquie et la Grèce. Comme nous savons, les relations gréco-turques n'étaient pas du tout faciles. Malgré les liens culturels et littéraires, il y avait toujours des problèmes politiques et communautaires. On a préparé les informations utiles et importantes sur les deux pays. On vous expliquera la situation politique et en plus, on vous présente les jeunes Turcs et Grecs qui habitent à Nancy. Mais tout d'abord, Rike vous donne toutes les infos sur les discussions de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne.
La Turquie est le pays des bazars, des commerçants, des plages. Istanbul, une ville moderne et contradictoire, un pont entre l'Orient et l'Occident. Dans les rues, des femmes se promènent en mini-jupe et certaines boîtes sont ouvertes toute la nuit. Mais en Anatolie, une des régions les plus pauvres de Turquie, on tombe sur une situation qui nous fait penser au Moyen-Âge. C'est un pays tout à fait contradictoire qui négocie officiellement depuis 2005 pour entrer dans l'Union européenne. Depuis 2 ans, ces négociations officielles sont ouvertes à toute issue. L'adhésion à l'Union n'est pas une fin en soi. Les pays membres restent divisés au sujet de la Turquie. Le président de la République française, Nicolas Sarkozy, s'est clairement opposé à une adhésion turque en mai 2007. La chancelière allemande, Angela Merkel, fait elle aussi partie des sceptiques et propose un partenariat privilégié. La Grande-Bretagne et la Suède, au contraire, se prononcent en faveur de l'adhésion. Si on laisse à part toute discussion sur la définition géographique de l'Union et sur les conséquences économiques de l'adhésion, il reste une controverse très importante, la question religieuse. La Turquie est le seul pays musulman officiellement laïque. Cette particularité pourrait le rendre très intéressant pour l'Union européenne. Certains pensent que ce sera un bon signal pour le monde musulman d'intégrer à l'Union européenne un pays avec une majorité musulmane. Mais on ne peut pas savoir d'avance si une telle adhésion consoliderait ou affaiblirait l'Union. D'autre part, la situation n'est pas si simple et la Turquie n'entretient pas de bons rapports avec tous ses voisins musulmans qui sont, par exemple, la Syrie, l'Irak et l'Iran. Les opposants avancent aussi l'argument selon lequel la Turquie ne remplirait pas les critères d'adhésion. La Turquie ne reconnaît pas Chypre, pourtant un État membre de l'Union européenne, et nie le génocide arménien. Le droit des minorités, kurdes et chrétiennes en particulier, ne sont pas garantis aujourd'hui. La liberté d'expression n'est pas non plus assurée. Le prix Nobel de littérature 2006, le Turc Orhan Pamuk, a par exemple été accusé d'avoir diffamé l'identité nationale en parlant du génocide arménien et de l'oppression de la minorité kurde. L'auteur a été confronté à des multiples menaces de mort. Quant au journaliste arménien de nationalité turque, Ranting, il a été abattu en janvier 2007 en pleine rue à Istanbul. Le premier ministre Recep Tayyip Erdogan n'était pas présent à ses funérailles. Pour toutes ces raisons, la Turquie ne correspondrait pas aux standards européens. Le mois dernier, le parti islamique conservateur du premier ministre Erdogan, l'AKP, a presque gagné la majorité absolue des sièges aux élections parlementaires. Ce parti se prononce en faveur d'une adhésion à l'Union européenne, mais il est regardé avec méfiance du fait de ses convictions religieuses affichées. En même temps, la Turquie a fait beaucoup d'efforts et de progrès ces dernières années. On peut penser qu'une possible adhésion à l'Union européenne pourrait accélérer le mouvement. La population européenne, quant à elle, ne se laisse guère convaincre. Selon un sondage fait en mai 2007, le scepticisme envers la Turquie grandit au sein de la population. Une des raisons avancées est que les Européens voient leur identité menacée, en particulier par la religion musulmane, comme le montre le sondage. Si on faisait un référendum ces jours, il est fort probable que le peuple européen va se prononcer contre l'adhésion de la Turquie.
Écoutez maintenant le chanteur Tarkan avec la chanson Simarik, la chanson du bisou qui a eu beaucoup de succès en 97.
Adamını beni orta yerinden çatlatıyor Ağzında sakızı şişirip şişirip Arsız arsız patlatıyor Biz böyle mi gördük babamızdan Hele güne rezil oldu Yeni adet gelmiş eski köye bak Dostlar mahvoldu Seni gidip önde kıran Yılanı deliğinden çıkaran Haberin püsküllü belam Yakalarsan Yakalarsam yaşıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan, eli güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye, bak dostlar mahvoldu. Seni gidip fındık kıran, yılanı derinden çıkaran, kaderim püskül belam yakarsam. Seni gidip fındık kıran, yılanı derinden çıkaran, kaderim püskül belam yakarsam. Ocağına düştüm yavrum, ocağına düştüm.
Vous écoutez Europe 'n Roll sur Radio Fajet. On est encore sur le thème spécial, la Turquie et la Grèce. Sophie a parlé avec Murat, un jeune Turc à Nancy, qui vous raconte sa vie.
Voilà Murat, tu nous répondras à quelques questions sur la Turquie et l'Europe, et tu veux te présenter pour nos auditeurs?
Enfin, très brièvement, écoute, j'ai 21 ans, et donc je suis en France il y a déjà 3 ans, donc on est déjà en 2007, et j'étais à la faculté de droit à Strasbourg, et avant j'étais en fait 10 ans dans le système allemand, et avant même au lycée français. Et je suis né à Ankara. Je suis parti quand j'étais très très jeune en fait, en Allemagne.
Alors Murat, tu as vécu en Allemagne, en France et en Turquie. Qu'est-ce qui te manque dans la vie quotidienne?
Tout d'abord, il n'y a pas de grande différence dans la vie quotidienne entre la Turquie et l'Europe. Et puis en France, ce qui me manque, c'est surtout l'hospitalité des gens.
Et à part ça, est-ce que c'est très différent?
Ce n'est pas très différent, comme je disais, mais sinon, si tu veux, en Turquie, il n'existe pas surtout la vie étudiante en ville comme en France.
Depuis 1963, la Turquie tente de rentrer dans l'Union européenne. À ton avis, pourquoi?
Pourquoi? Parce que l'Europe est l'entité la plus proche qui fait l'expansion de la démocratie. Et effectivement, la Turquie aussi, pendant l'époque de l'Empire ottoman, essaie toujours de se rapprocher de l'Europe.
Et si la Turquie entrait, qu'est-ce que ça changerait?
Qu'est-ce que ça changerait? Surtout sur le plan économique, ça va changer grande chose, à mon avis, parce que économiquement parlant, l'Union européenne apporte beaucoup d'avantages. Mais sinon, à mon avis, il y aura pas de grand changement, parce que la Turquie est déjà à peu près, bon, dire est-ce qu'elle est européenne, c'est pas facile non plus. Mais sinon, je crois que ça va surtout changer quelque chose pour l'Europe, peut-être au niveau justement politique. Mais sinon, à part ça, il y aura pas de grande différence, à part l'économie.
La Turquie est une démocratie assez jeune. Pourtant, les femmes ont eu le droit de vote 40 ans avant la France. Qu'est-ce que ça t'inspire?
Qu'est-ce que ça m'inspire? Cela montre que la Turquie, même si c'est une démocratie jeune, donne beaucoup d'importance à la démocratie, justement. Qu'est-ce que cela m'inspire? Eh bien, je suis fier de mon pays pour cette raison. Et puis, si tu veux, dans cette région tout à fait fragile et très très sensible, le fait que la Turquie avait déjà promulgué la loi pour le droit de vote des femmes, c'est un pas très très important.
Alors c'est quoi les obstacles pour que la Turquie n'entre pas dans l'Union européenne?
Eh ben il y a deux obstacles principaux. C'est tout d'abord Chypre, parce que la Turquie ne reconnaît pas Chypre. Chypre a été divisé en deux entités, d'une part le Chypre grec et puis le Chypre turc. Et puis il y a la deuxième raison, qui est que l'armée est quand même intervient beaucoup dans la démocratie encore, comme je disais, puisque la Turquie, certes, c'est une démocratie, mais effectivement dans une zone fragile où l'armée joue encore le rôle d'un garant de la démocratie.
Et le génocide arménien, c'est pas un obstacle?
Le génocide arménien, effectivement pour la France, c'est un obstacle, mais le Parlement européen l'année dernière, au mois d'octobre, a voté contre le fait que le génocide arménien devrait être une condition préliminaire pour que la Turquie entre dans l'Union européenne. Donc c'est un thème à discuter.
Et tu penses que la Turquie est européenne ?
Pour savoir si la Turquie est européenne, il faudra d'abord savoir qu'est-ce qui est européen.
Merci Sofia et merci Murat. Et on passe tout de suite à un chanteur turc qui s'appelle aussi Murat. Murat Boz avec la chanson Maximum. C'était Murat Boz avec Maximum et on passe à Maxime. Quand on parle sur le conflit entre la Turquie et la Grèce, il faut mentionner la République de Chypre, située entre les deux pays. Maxime vous explique tout.
Une île de la mer Méditerranée entre la Turquie et le Moyen-Orient, une histoire qui remonte à l'Antiquité, un pays membre de l'Union européenne depuis 2004. Vous avez reconnu ? Il s'agit bien sûr de Chypre, ses vestiges, ses criques baignées par des eaux turquoises, ses touristes et sa frontière infranchissable entre la partie turque au nord et la partie grecque au sud. Chypre est en effet partagée depuis 1974 en deux États, et la situation n'a pas été résolue depuis cette époque. Explication. La composition actuelle de la population chypriote est le fruit de l'histoire. Peuplée de Grecs dans l'Antiquité, conquise par les Turcs au Moyen-Âge, puis annexée par la Grande-Bretagne après la Première Guerre mondiale, de nombreuses communautés se côtoient sur l'île. En 1955, les Chypriotes grecs prennent les armes pour réclamer le départ des Britanniques. Les accords de Zurich de 1959 mettent fin à cette lutte et, en 1960, Chypre devient une république indépendante. Mais le répit sera de courte durée car rapidement un conflit politique apparaît. Les députés chypriotes turcs et chypriotes grecs s'opposent mutuellement des vétos, ce qui bloque le fonctionnement normal des institutions politiques. En 1963, le président de la République Makarios propose alors d'amender la constitution de façon à résoudre ce problème. En réalité, ça ne fera qu'exacerber les tensions. Les chypriotes turcs refusent le projet du président et mettent en œuvre la partition de l'île partout où ils le peuvent. Très vite, le conflit dégénère en affrontement direct et l'année 1964 est sanglante. Les chypriotes grecs opèrent une purification ethnique contre les Turcs. Ces derniers répondent par des représailles, c'est l'escalade de la violence. En 1965, les casques bleus de l'ONU interviennent. Cependant, en 1974, les tensions renaissent avec l'intervention de la Grèce, alors sous le joug de la dictature des colonels. Les troupes grecques tentent un coup d'état contre le président chypriote Makarios. De peur d'une annexion de l'île, la Turquie envahit le nord de Chypre pour protéger ses intérêts. Lorsque le calme est rétabli, les Turcs refusent d'évacuer et imposent la séparation entre les deux communautés de part et d'autre d'une ligne verte. En 1975 sont alors créées au nord la République turque de Chypre du Nord, reconnue seulement par la Turquie, et au sud la République chypriote, peuplée d'habitants en majorité grecs. Chypre Sud est reconnue internationalement, sauf par la Turquie bien sûr. Les relations entre les deux communautés se sont depuis apaisées, mais un récent référendum qui voulait l'établissement d'un État confédéral a été refusé par la partie grecque de l'île. En 2004, c'est cette partie qui est entrée dans l'Union européenne. Le règlement de ce conflit qui dure depuis plus de 40 ans semble aujourd'hui conditionné par les négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Mais le poids de l'histoire reste bien présent dans l'esprit de la population et la fameuse ligne verte reste infranchissable. Impossible donc d'aller visiter les plages dorées de la partie turque lorsque l'on vient de la partie grecque, et vice-versa.
Pour relâcher le thème, écoutez maintenant la chanteuse grecque Eleftheria Arvanitakis avec la chanson « Despacio Coupes » et ça veut dire « Je vais casser des tasses ».
Για τα λόγια του πες.
C'était Lefteri Arvanitaki qui a cassé toutes les tasses. Et on continue avec le thème la Grèce. Amélie a rencontré trois filles grecques qui ont passé l'Erasmus à Nancy et qui aiment beaucoup les mecs français.
Une fois de plus, à la Colloque Lobo, nous avons une soirée Erasmus. Je suis avec
Dimitra,
qui est grec, et
Rania,
qui est aussi grec, et
Sarah,
qui est aussi grec. Il y a plein de grecs ici. Qu'est-ce que vous allez retenir de la France?
Et bien sûr, on va manquer toutes les personnes qu'on a rencontrées, qu'on était ensemble pendant tous les 5 mois, et toutes les soirées Erasmus, et l'ambiance à l'université. Quand je suis venue, j'étais étonnée avec les horaires des magasins, des repas, parce qu'en Grèce, en fait, on mange beaucoup plus tard qu'ici. On mange 2 ou 3 heures après vous.
Moi, je vais retenir les soirées qui sont tout à fait différentes des Grecs. En Grèce, nous sommes habitués que quand on va à une soirée, on met de la musique, on danse. Mais ici, j'ai beaucoup aimé le fait que tout le monde parle et ils se rencontrent et ils parlent de leur pays.
Qu'est-ce qui pour vous est typiquement français?
Les vins.
Parler lentement. Et la politesse aussi. Oui.
Donc les Français parlent lentement et sont polis.
Oui.
Ah bon, tiens, c'est... D'accord. Moi, j'ai entendu à chaque fois... Oui, il y a tout le monde qui court après les Grecs. Tous les garçons, ils voulaient sortir avec les Grecs.
Je crois que ça a commencé parce qu'on était les seuls qui sortaient chaque soir. Je crois que c'est la raison.
On a beaucoup d'envie de sortir, d'aller aux soirées, d'amuser. Ça dépend des filles, ça dépend pas des Grecs. Il existe aussi des Grecs qui sont nuls.
Parlons un peu des hommes français.
Je crois qu'ils sont très différents des Grecs. Quand ils approchent une femme, c'est totalement différent. Ils sont très romantiques, plus polis. Oui, trop romantiques.
Ils ne sont pas timides pour dire que oui, je t'aime ou... Ils sont très mignons. Quand je suis énervée, peut-être il ne comprend pas pourquoi. Je pense que c'est des différentes mentalités, des différents moyens de penser. C'est sûr qu'ils sont plus mignons et ils disent toujours des compliments, oui.
Ils ne sont pas trop romantiques, mais très romantiques. Ils n'ont pas peur d'aller à une fille et elle dit ce qu'ils pensent pour elle. En Grèce, il faut qu'il regarde une fille beaucoup de fois pour qu'il dise à elle tes sentiments. Mais ici, c'est totalement différent.
Pas Sertaki et surtout pas Nana Mouskouri, mais une version grecque d'une chanson qui a beaucoup de succès en France en ce moment. Domna Kunturi avec la chanson Denta Mai Edo. Να αναπνέεις την εμπονή, να νικήσεις τη βροχή, να κινήσεις τη γη. Λες πως είμαι η ζωή, το κεράκι στη γιορτή. Είμαι ήλιος να κοιτάς και φεγγάρι να πας. Τι ωραία να το λες, τι ωραία να το θες. Τι ωραία όλα αυτά, μα τι κάνεις μετά. Τι ωραία να το λες, τι ωραία.
Να το μιλάς, να το ρωτάς, αν δεν νιώθω στο κορμί των φιλιών σου τη γραμμή. Από μένα λες πως είσαι, πως τα χέρια μου ηρεμείς. Μες στα δυο μου μάτια λες, ταξιδεύουν οι εποχές. Τι ωραία να το λες, τι ωραία να το θες. Τι ωραία όλα αυτά, μα τι κάνεις μετά. Τι ωραία να το λες, τι ωραία. Δεν θα με δω από τα μάτια μου να δεις. Δεν θα με δω.
Vous êtes bien chez Europe Roll avec les spéciales d'été, la Turquie et la Grèce. Cédric a parlé avec Fenia, une franco-grecque de Nancy.
Je m'appelle Fenia, je suis franco-grecque. Je suis née en Grèce, à Corinthe. J'ai vécu la moitié de ma vie et l'autre moitié, je l'ai vécu en France. Donc, je pense que j'ai la double culture.
Vous allez pouvoir nous parler de la Grèce. Encore aujourd'hui, imprégnée de ses traditions antiques, ou est-ce que c'est vraiment juste pour les touristes?
Il y a peut-être... une présentation des choses plus touristiques, mais ce sont quand même des éléments très très présents dans la culture, la littérature, l'imaginaire grec. Petite précision sur l'aspect tourisme, le Syrtaki a été inventé exprès pour le film Zorba le Grec. Depuis, tout le monde le danse, même les Grecs. Il y a beaucoup, enfin, il y a énormément de danses folkloriques qui se dansent dans les îles, pour les fêtes, les mariages. Et la mythologie grecque est très 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 présente encore aujourd'hui. Le projet des Jeux Olympiques à Athènes en 2004, c'était le retour au bercail des Jeux Olympiques. Pour chaque jeu qui sont organisés à chaque tous les 4 ans, la flamme olympique part d'Olympie et qui après fait le tour du monde.
Est-ce qu'il y a toujours des croyances comme ça aux dieux anciens?
C'est un pays chrétien orthodoxe. Par contre, ce sont des mythes et des légendes qu'on perpétue, qu'on apprend, qu'on raconte aux enfants. La religion est chrétienne orthodoxe et elle est aussi très présente dans les coutumes et les habitudes de la Grèce actuelle.
Donc on parlait de touristes, alors je vous demandais comment est-ce que les Grecs voient les touristes?
Le tourisme est une des ressources principales du pays. Il y a des sites touristiques où forcément il y a un tel passage que les gens, ils ont compris le système, donc ça marche comme ça. Après, si on est plus aventurier, qu'on va plus dans le pays... On est aussi très très bien accueillis à 14h par une petite yaya, donc une grand-mère qui va vous faire des œufs sur le plat à l'huile d'olive.
Comment est-ce que vous présenteriez la Grèce d'aujourd'hui?
On peut dire quelques différences. C'est vrai qu'il y a une joie de vivre, qui sont très fêtards. Il y a une situation économique dans le pays qui est très très difficile. Et pourtant, les gens, quand vous leur en parlez, ils disent « bon, c'est la vie continue ». En France, on peut être un petit peu plus stressé ou dans un rythme de vie plus sérieux.
Grèce est entrée donc dans l'Europe peu d'années après la dictature des colonels. Comment est-ce qu'aujourd'hui les Grecs voient l'Europe?
Par rapport à la France, c'est clair que la Grèce en a une vision toute différente. La France est un grand pays qui fait l'Europe quelque part. Elle fait la pluie et le beau temps. La Grèce fait partie de ce qu'on appelle les petits pays. Actuellement, en fait, ils ont ce à quoi ils pensent le plus, c'est l'euro, parce qu'ils en ont énormément souffert. Avec une conjoncture aussi, il y a une inflation, on parle de 40% d'inflation. Par contre, c'est quand même perçu comme une opportunité d'ouverture, d'échange avec le reste de l'Europe. Les Grecs sont quand même, si on prend un sondage comme ça à chaud, je pense qu'ils sont plus pro-européens que ne peuvent être les Français.
Merci d'avoir écouté Europe Roll préparé par l'équipe d'été. On ne se repose pas non plus la semaine prochaine. On parlera d'un thème spécial, les vacances, pas trop loin. Alors, restez fidèles à Europe Roll sur Radio Fadjet. À la semaine prochaine!